Bonjour à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de m'entretenir avec Alice Cordier du collectif Némésis. Bonjour Alice, comment vas-tu ?
Bonjour Raphaël, merci beaucoup de nous recevoir. Eh bien, écoute, ça va très bien, un peu speed, mais ça va.
Donc, tu es la présidente du fameux collectif Némésis, donc, qui a été fondé en 2019 et qui a beaucoup fait parler de lui à travers différentes actions. Est-ce que tu pourrais présenter tout simplement ce collectif pour ceux qui ne le connaîtraient pas ?
Bien sûr, alors le collectif Némésis est un mouvement féministe qui est né en effet en octobre 2019 sous l'impulsion de deux choses, je dirais. La première, c'est que les militantes comme moi qui ont créé ce collectif ne se retrouvaient pas dans le discours féministe actuel, discours selon nous trop biaisé par une idéologie vraiment de gauche, au point qu'on se demande si ce n'est pas des militantes de gauche plutôt que des vraies véritables féministes. On considère que le combat féministe doit être au-dessus de la politique. Et la deuxième chose qui nous a donné envie de monter ce mouvement, ça a été l'impact de l'immigration sur nos quotidiens, sur nous, jeunes femmes, plutôt citadines, pour les cofondatrices en tout cas. Et le fait qu'on était confrontés très régulièrement à du harcèlement de rue intimement lié à des personnes issues de l'immigration, et que dans le débat public, personne ne parlait trop de ça. Ça commence un petit peu à changer, mais ce n'est pas encore le cas. Et du coup, on a créé ce collectif dans le but de dénoncer cela, de dénoncer aussi d'autres choses qui peuvent se passer en France, les violences faites aux femmes, évidemment, l'impact de l'islamisation sur le pays et sur les femmes, le fait aussi qu'au sein de notre civilisation européenne, le discours aujourd'hui, c'est que les femmes n'auraient jamais eu de place alors que c'est vraiment faux, et nous on essaye un petit peu de réhabiliter, on va dire, l'histoire à ce niveau-là en donnant une autre version et en mettant en avant des femmes qui ont marqué l'histoire. Et comment on traduit cela ? Et ben, par le biais de ce que j'appelle des opérations d'agitprop, du happening médiatique, où on va faire des actions qui vont intéresser les médias, qui vont intéresser aussi l'opinion publique, faire en sorte que les services publics s'emparent de certaines questions. Donc typiquement, on est arrivé par exemple en 2020, place du Trocadéro en niqab intégral pour dénoncer l'impact de l'islamisation. C'est un peu ce genre d'happening qu'on peut organiser. Puis on a sinon des sections en France, dans différentes villes, qui ont une vie de section régulière avec du collage d'affiches, du tractage, et aussi la mise en avant de scandales ou de faits divers qui ont lieu dans leur ville.
Ok, très bien. Mais justement, c'est vrai que vous avez fait donc de nombreuses actions, certaines qui ont été très médiatisées et dont une que j'avais trouvée vraiment très intéressante, c'était ce qu'on appelle vraiment un troll de génie. C'était en 2022, je crois,
en
novembre, c'est ça, ouais. Où en fait, vous avez infiltré donc une manifestation de gauche et déguisé, on va dire, pour le coup, parce que vous portiez des vêtements, donc c'était vous portiez tout simplement le voile ou même directement une burqa intégrale, je crois.
Oui, c'était quasi intégrale. En fait, on avait un masque en dessous parce que c'est illégal d'avoir une burqa intégrale.
Oui, et donc en fait, ce qui était génial, c'était de voir que ça permettait de montrer en fait le problème qu'il y a dans le logiciel des gauchistes, c'est-à-dire que vous étiez venu avec des pancartes, avec des messages donc assez particuliers et donc pro-islam, et vous étiez intouchable et invisible, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une incapacité de vous voir. Vous avez mis quoi comme message exactement qui permettait de montrer cette négation intégrale des manifestants qui étaient là-bas ?
Oui, alors, donc pour situer un peu le contexte, nous, notre but, c'était vraiment d'interpeller sur le fait qu'aujourd'hui, des mouvements qui se disent féministes n'ont plus vraiment rien de féministe, en tout cas sur certains sujets. Ils sont prêts à accepter des idéologies hyper patriarcales et obscurantistes sous prétexte que l'islam serait intouchable. Donc en fait, nous, on est arrivés en faisant comme si on était un groupe de féministes islamistes. Enfin, c'était comme ça qu'on s'était... Enfin, voilà, on avait des pancartes, donc féministes et islamistes, et alors, mon Coran, mon choix, ma burqa, mon corps, ma burqa, enfin bref. Des choses, des slogans en plus qui font penser à ce que font d'ailleurs généralement les féministes de gauche, donc mon corps, mon choix, etc. Et qui là, ça n'a posé aucun problème. On a été même dans le top 10 des meilleures pancartes de la manifestation, alors que je pense que nos slogans n'avaient rien de féministe, en tout cas selon ma définition du féminisme. Donc en fait, elles sont tellement bloquées dans une idéologie vraiment d'extrême gauche qu'elles en viennent à flirter finalement avec un obscurantisme qui n'a rien de féministe, mais qu'elles vont accepter, quoi.
Et c'est-à-dire que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'imaginer notre situation où il y avait une pancarte avec directement marqué « Ma Bible, mon choix ».
Oui, ah bah là...
Et là, on sait bien qu'il y aurait eu, à mon avis, une réaction complètement différente. Et donc ça, c'est le travail intéressant qui est fait par ton collectif, c'est-à-dire dénoncer donc une certaine hypocrisie, une certaine dérive en fait du féminisme post-moderne. D'ailleurs, étant donné que tu te définis donc comme avec le collectif comme du féminisme identitaire, comment est-ce que tu peux définir ça, sachant que le terme féminisme ou féministe étant tellement galvaudé, il y a tellement de sens qu'on peut donner. Ben, je pense que c'est important de faire cette précision, quoi.
Alors, d'abord, par rapport au mot féministe, moi, ma définition, c'est qu'il existe en effet des violences qui sont faites aux femmes parce que femmes, donc des violences qui sont propres aux femmes. Je pense typiquement au harcèlement de rue. Les hommes n'en sont pas victimes, ils sont victimes d'autre chose dans la rue, mais pas de harcèlement. Ou alors, peut-être les hommes un peu efféminés, bref, mais c'est un autre débat. Et du coup, c'est vrai qu'il existe des violences qui sont vraiment propres aux femmes. Et à ce titre, on considère que le féminisme a encore une place aujourd'hui, malgré les évolutions qu'on a pu connaître en France jusqu'à maintenant. Et du coup, il existe des nouvelles problématiques qui nécessitent l'apparition peut-être d'un néo-féminisme peut-être qui s'attaque à d'autres thématiques. Il existe évidemment encore des violences conjugales. On sait aussi qu'aujourd'hui, je crois que c'est 0,6% des viols seulement qui sont condamnés. Enfin, voilà, donc il existe encore je pense que le féminisme aujourd'hui est encore essentiel si tant est qu'on l'utilise bien et qu'on le définisse bien. Donc voilà pourquoi nous on se considère comme féministes, c'est parce qu'on va mettre en avant des droits ou des violences qui vont concerner que les femmes parce qu'elles sont femmes. Et la deuxième chose, pourquoi identitaire? Ça renvoie pas forcément à l'idéologie un peu nationaliste qu'on peut associer au côté identitaire. Là, nous, c'était vraiment très concret. C'est qu'en gros, nous, on s'est dit, on est des femmes françaises. On va parler des revendications et des violences que peuvent connaître les femmes en France. Et du coup, ça renvoie à notre identité. Et du coup, c'est à ce titre qu'on voulait se dire identitaire parce que sur dans notre travail, nous, on va traiter essentiellement de ce qui se passe en France, parfois de certains pays frontaliers aussi, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes communs. Mais on va pas, par exemple, pouvoir faire des actions pour les Iraniennes ou pour d'autres continents, puisqu'on considère qu'on peut pas sauver tout le monde. Et du coup, nous, on s'est dit, on va se concentrer sur les femmes et peut-être plus globalement sur l'Europe. Et plus globalement sur l'Europe, pardon.
Et justement, qu'est-ce que tu pourrais répondre à une critique qui pourrait rapidement venir ou un commentaire? C'est que le féminisme, le fait d'utiliser ce terme, en tout cas de rentrer sur ce terrain-là, ça amène à une guerre des sexes qui permettrait d'occulter certains problèmes plus importants, voire même en fait des causes de certaines conséquences qu'on peut observer donc sur la situation des femmes, avec par exemple la lutte des classes, etc. C'est un message que j'ai vu dans le chat.
Ben, moi, je suis farouchement opposée à cette guerre des sexes et je pense, moi, je suis la première à pointer du doigt, en effet, ce néo-féminisme post-moderne, en fait, comme tu le dis si bien, qui, je pense, a totalement tué les rapports hommes-femmes, au point d'exclure aussi les hommes dans certaines causes pour lesquelles ils peuvent être touchés, même s'ils n'en sont pas les victimes premières. Je suis hyper soutenue par des hommes dans le cadre de mon association. On est une association où c'est que des femmes qui sont activistes. En revanche, on n'est pas du tout à cracher sur le soutien des hommes et sur le fait que sur, par exemple, je prends un exemple, mais la manifestation dont tu parlais lors de Nous Toutes, on est intervenu lors de la manif de novembre dernier. On avait un service d'ordre composé d'hommes, de boîtes de sécu. Mais si tu veux, on n'a aucun complexe à travailler avec des hommes et on n'est pas du tout dans cette guerre des sexes avec une certaine misandrie qu'on peut voir dans certains mouvements féministes et qui, je pense, ont totalement saboté le féminisme. Je suis opposée. Moi, je ne vois pas du tout ça comme... lutter contre l'impact de l'immigration, en tout cas par le biais du harcèlement de rue, j'inclus totalement les hommes dans ce combat-là. Et les hommes qui ont peur pour leurs femmes, qui ont peur pour leurs filles, qui ont peur maintenant pour leur mère, parce qu'on se rend compte que malheureusement, toutes les femmes, quel que soit leur âge, sont victimes de ce genre de choses. Et c'est vrai que je ne vois pas mener ce combat sans eux. Voilà.
Mais justement, alors, pourquoi avoir décidé de faire une association réservée, ou en tout cas gérée exclusivement par des femmes? Parce que ça, je pense que c'est ce qui peut créer une des multiples incompréhensions qu'il peut y avoir, vu que tu utilises un terme qui est utilisé par la gauche avec le féminisme, que vous menez donc une action, des actions assez particulières, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'incompréhension. C'est-à-dire, dès qu'on va parler de féminisme, par exemple, même si on dit identitaire, on peut imaginer que ça peut vite, il pourrait y avoir des dérives sur la liberté unique de la femme. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la guerre des sexes. Mais pourquoi avoir fait donc cette association exclusivement avec des femmes? Parce que ça, je pense que ça peut créer de l'incompréhension chez des personnes qui pourraient dire, ça sent quand même bizarre, quoi.
Ouais, je comprends. Alors, nous, je comprends totalement parce qu'aujourd'hui, on a le cerveau un petit peu pris avec toutes ces histoires de tu sais, les événements non inclusifs ou en non-mixité, pardon. C'est vraiment le terme un petit peu à la mode. Pareil, dans les manifs féministes, on voit aujourd'hui des cortèges en non-mixité où les hommes seraient interdits. Donc, je comprends totalement cette critique à ce niveau-là mais en fait, on comprend pas. Alors, nous, ça a aucun rapport avec cette histoire de non-mixité. Nous, c'est simplement parce que vu qu'on parle typiquement du harcèlement de rue, les femmes seront les plus à même de pouvoir expliquer la sensation que c'est, de pouvoir expliquer la violence que c'est. Et puis la deuxième chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, quand on a monté cet asso, on savait qu'on serait fortement critiqué par les médias mainstream ou de gauche, voire même si ça ne veut pas dire la même chose aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que pour une question de crédibilité, on ne voulait pas mélanger trop et qu'on ait finalement peut-être plus d'hommes que de femmes, parce qu'en plus, dans ces combats-là sur l'immigration, il y a généralement plus d'hommes à vouloir se mouiller que de femmes. Trouver des militantes, c'est pas si évident que ça. Et du coup, c'est vrai que nous, on a préféré rester un mouvement purement féminin pour une question de crédibilité, pour expliquer, pour, d'une certaine façon, montrer pas de blanche aussi, mais aussi pour une question de, justement, de vécu, parce qu'on considère qu'un homme ne pourra pas aura peur et pourra comprendre, aura peur pour sa fille ou sa femme, etc. Donc pourra partager ce combat, mais ne pourra pas forcément comprendre ce que c'est et pouvoir vraiment le vivre comme nous, quoi.
Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette initiative, c'est que, donc à mon avis, tu dois suivre les réseaux, les contenus dits de droite ou qui veulent lutter contre le wokisme, le féminisme depuis des années. Et on a observé un changement, c'est que ça a mis du temps avant qu'on puisse observer de plus en plus de femmes qui décident de prendre la parole ou de s'exposer. Je pense que je ne me risque pas trop à dire que, à mon avis, c'était surtout des hommes qui apparaissaient dans la lutte idéologique, et les femmes ont mis du temps à apparaître, c'est-à-dire des femmes de droite, à parler plutôt de la tradition, etc. Donc ça, c'est quand même... pardon, excuse-moi, c'est quand même... quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que ça peut motiver, je pense, de plus en plus de femmes à oser en fait s'engager sur une voie qui est en fait dénoncée par l'État, par le dogme idéologique. Et donc, quelle a été la croissance de ton groupe? Combien de membres est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez de multiples projets qui se développent chaque année? Est-ce que vous n'avez pas trop d'obstacles? Comment ça se passe à ce niveau?
Alors, en fait, il faut savoir que quand on s'est monté, on ne pensait absolument pas cartonner. En fait, on est vraiment arrivé de façon très humble. On était un petit groupe de copines qui s'était constitué d'ailleurs autour de cette thématique, de cette incompréhension du féminisme actuel, cette violence dans l'espace public qui naissait. Et du coup, c'était des filles que j'ai rencontrées par des blogs, par des relations communes, enfin voilà, c'était... Et au début, on n'était pas un groupe politique, on l'est devenu suite à une accumulation de faits divers qui a fait qu'on a explosé, et que là, on a dit, en fait, on monte un truc, on tente le coup, on verra ce que ça donne. Mais il faut savoir qu'au début, c'était quand même du bricolage. On avait... Le seul truc professionnel qu'on avait, c'est qu'on avait une graphiste, on avait une de nos copines, voilà, qui maîtrisait bien ça, et du coup, ce qui nous a permis d'avoir un logo très rapidement et de passer très vite pour quelque chose d'assez carré, alors que dans les faits, enfin vraiment, nos premières actions, c'était vraiment du... On avait des pancartes, on avait acheté de la peinture et on avait fait comme ça, quoi. Ce qui nous a aidé beaucoup, c'est que déjà, on avait vraiment cette colère interne. Je dis pas cette haine, mais vraiment cette colère de pas être représentée justement par des femmes qui se targuaient de nous représenter, tu vois. C'est pour ça que nous, on a voulu très rapidement, notre marque de fabrique au début, c'était vraiment d'intervenir dans les manifs féministes en disant « Nous aussi, on est féministes, mais on a peut-être un autre discours que vous, mais ce discours-là, il mérite d'être écouté et entendu parce qu'en fait, on est en train d'exploser, quoi. » Et du coup, il y avait vraiment cette colère de jeunes femmes. Moi, j'avais 22 ans quand j'ai cofondé l'asso avec les filles. On avait toutes à peu près cet âge-là, ou un peu plus âgées ou un peu plus jeunes, mais tu vois, c'était vraiment autour de la petite vingtaine. Et on avait vraiment ce ras-le-bol qui a vraiment été notre moteur. Et le deuxième moteur, c'est qu'on a eu un gros buzz, en fait, au bout d'un mois de création de l'asso, c'est qu'on est arrivé dans une manifestation, on avait des pancartes anti-immigration, on est passé devant une caméra de grosse audience, je sais plus si c'était BFM ou LCI qui était en direct, et du coup, nos pancartes anti-immigration étaient vues par beaucoup, beaucoup de gens, et surtout, il y a aussi une réaction sur place des féministes de nous toutes qui se sont arrêtées sur nous, qui nous ont huées, qui nous ont violentées, ça allait encore à ce moment-là. Et du coup, c'est une vidéo qui est devenue virale et qui a fait un peu le tour des réseaux en disant « Regardez des féministes anti-immigration, qui sont-elles, etc. Et » tout. Bon, il s'avère que personne ne savait qui on était puisqu'on était nobody. Enfin, voilà, on n'était pas rallié à un parti politique, on n'était pas la branche féminine d'un mouvement identitaire ou quoi. Enfin, voilà, on était juste nous, quoi. On était une nouvelle asso. Et du coup, c'est vrai que ça a suscité beaucoup de on se demandait qui on était. Et du coup, en fait, on a décollé comme ça parce qu'il faut savoir que quand on s'est monté, la droite nous a pas trop regardé. On a essayé pourtant de démarcher un petit peu certains médias de droite et tout, mais c'est vrai qu'au début, ils n'étaient pas super à fond, sauf Boulevard Voltaire, je tiens à préciser, qui nous avait suivi dès le début. et l'étudiant libre, je crois. Mais en fait, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu dur. Enfin, le premier mois, ça a été dur. Et en fait, bah, on a fait nos marques assez rapidement. Et là, les gens, en tout cas, de certains groupes, se sont rendus compte qu'on avait peut-être une plus-value à apporter.
Mais justement, à ton avis, le fait qu'il y ait eu très peu de soutien, est-ce que le problème n'est pas venu du choix du nom du collectif? Parce que le collectif, donc Némésis, tu vas peut-être pouvoir expliquer pourquoi ce nom a été choisi, mais c'est vrai que dès qu'on le lit, on a l'impression que ça va être juste de nom, on peut croire que ça va être un groupe misandre, de colère, et donc une sorte de Femen bis. Donc c'est vrai que
Ouais, je comprends.
quand un groupe est en train de se développer, qu'il n'a pas encore fait d'action, bon, c'est assez...
Oui, c'est normal si tu... C'est normal que les gens n'aient pas tout de suite accroché, mais on sentait vraiment que le mot féministe faisait grincer des dents, quoi. Tu vois, c'était vraiment un rejet de ce mot-là. Ce que je peux entendre, hein, parce que vu comment ce mot est galvaudé, je peux comprendre que les gens n'aient pas adhéré tout de suite, mais c'est pas grave. Et oui, et par rapport au nom Némésis, alors c'est la déesse de la juste colère et du châtiment divin, déesse grecque, et du coup, c'est vrai que bah oui, ça fait un peu violent. Les gens peuvent se demander qui on était, est-ce que ouais, on n'était pas là pour castrer des hommes comme certains mouvements se targuent de faire. Et nous, pas du tout, nous, on était vraiment là parce qu'en fait, c'est une déesse. Au début, on se disait, ça fait peut-être beaucoup de choisir une déesse grecque, de dire identitaire et tout, ça fait peut-être un peu caricatural, mais en fait, elle collait tellement bien avec notre combat, avec le fait qu'elle considérait par exemple que la justice était trop laxiste et du coup, elle venait en rajouter une couche quand elle considérait qu'un homme qui avait péché n'avait pas pris assez. Enfin, il y a quand même tout ce côté-là où nous, on est vraiment aussi dans cette revendication de rendre des peines incompressibles, tu vois, de les étrangers qui se seraient mal comportés. Enfin, on est quand même là-dedans. Et du coup, c'est vrai qu'on trouvait qu'elle collait tellement bien qu'on n'a pas pu résister à la prendre comme nom.
Ouais, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez clair sur le plan symbolique et aussi, bon, bah, ça a une efficacité marketing qui marche encore mieux. C'est obligatoire lorsqu'on veut faire un mouvement dit politique. Donc là, il y a plein de questions qui sont donc dans le chat et qui sont bien parce que cet entretien va vraiment être fait pour amener des éclaircissements donc sur ton collectif, ces actions à penser. Donc là, c'est la fin. Il y a eu plusieurs questions qui sont justement qui font partie des polémiques. Là, c'est qu'est-ce que l'immigration a à voir avec le féminisme, justement?
Ok.
Pourquoi dans le féminisme et dans le féminisme donc identitaire, pourquoi se concentrer à ce point-là sur l'immigration, sachant que c'est la première étape de question, la deuxième, tu t'en doutes, hein, ça va être on va parler rapidement de l'islam.
Bien sûr. Alors, par rapport à ce rapport à l'immigration, en fait, il faut savoir que moi, je fais partie d'une génération qui a connu le harcèlement de rue. Qui a connu le harcèlement de rue à haut niveau, et dès mes 13-14 ans, ça a commencé. Donc, il faut imaginer, voilà, des mecs de l'âge de mon père qui me faisaient des avances dans la rue, dans des rues d'Orléans. Si certains y habitent, ils sauront à peu près de quelle rue
Mais
je parle.
excuse-moi de te couper, parce que donc moi je suis à Bordeaux et quand j'ai vu les pubs justement pour parler du harcèlement de rue, quand je voyais la photo des personnes justement sur les pages publicitaires, c'était que des hommes blancs, il n'y avait pas d'immigration, donc ça me semble assez curieux ce que tu me racontes.
Et c'est vrai, alors, et en fait, on fait partie d'une génération de femmes qui a vraiment connu donc ce harcèlement de rue et le fait que c'était constamment par des personnes issues de l'immigration. Et là, toutes les personnes qui me disent que c'est faux sont de mauvaise foi. Et je reviens par rapport à ce que tu disais, par rapport à la mairie de Bordeaux qui a sorti des publicités juste honteuses parce qu'elle présente les harceleurs de rue comme des chefs d'entreprise de 50 ans. On voit bien une sorte d'agent immobilier, enfin, c'est super bizarre. Alors que la réalité du harcèlement de rue n'a rien à voir avec cela. Et du coup, c'est vrai que moi, de ma propre expérience, ça a toujours été par des personnes issues de l'immigration. Au début, je me suis dit, mais en fait, tu fais une fixette, t'es ouf, hein, t'as un problème, en fait. Je sais pas, t'es raciste de nature, j'en sais rien. Mais en fait, petit à petit, en discutant avec d'autres femmes, je me suis rendu compte qu'elles aussi avaient expérimenté ça. Et puis après, il y a des chiffres du gouvernement qui sont venus éclaircir, on va dire, un petit peu tout ça, en montrant notamment que 63% des agressions dans les transports en Île-de-France sont faites d'étrangers, des agressions sexuelles. Et il y a d'autres chiffres aussi dans d'autres pays qui nous ont montré que, on sait par exemple qu'en Italie, il y a 42% des viols ont été faits par des étrangers en 2020. C'est des chiffres du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas des chiffres que j'invente.
Excuse-moi de te couper, je pense que là c'est peut-être important de préciser les termes donc de cette étude, parce que c'est ça qui peut créer de la confusion et des réactions un peu pavloviennes chez certains. C'est donc étranger. Comment est-ce qu'il faut comprendre sur ce genre d'études étrangers? Est-ce qu'on parle d'immigration clandestine? Est-ce qu'on parle de binationaux? Est-ce qu'on parle juste de personnes de couleur, à ton avis?
Alors, en fait, il faut savoir qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites. Donc, en fait, on va vraiment se baser que sur la nationalité des personnes. Et du coup, c'est vrai que quand on dit 63% des agressions sont le fait d'étrangers, nous, on a eu le développement des nationalités de ces étrangers-là. Et il ressort que la majorité de ces 63% sont des nationalités africaines ou maghrébines. Voilà. Donc ça a fait un petit peu confirmer un peu ce que nous, on pensait. Et le fait qu'il y avait quand même un problème entre une immigration qui arrive, une immigration de masse, qui est parfois clandestine, mais parfois aussi pas clandestine, qui arrive en France, qui arrive avec des us et des coutumes qui sont un peu aux antipodes de notre culture. Le fait que nous, voilà, les femmes sont assez libres en fait, de s'habiller comme elles veulent. Alors que dans des pays, il faut imaginer qu'il y a des hommes qui viennent de pays où les femmes sont totalement voilées et c'est la première fois qu'ils voient aussi des femmes quand ils arrivent en France. Il faut savoir qu'on a eu des cas de viol de jeunes femmes dans l'espace public où les avocats expliquaient que c'était dans les mœurs du criminel, enfin du violeur, que de se comporter comme ça avec les femmes. Donc c'était vraiment on se rend compte qu'il y a vraiment des hommes qui viennent de ces sociétés-là, qui ne sont pas du tout assimilés ou intégrés, et qui du coup reproduisent leur comportement de ces sociétés-là chez nous. Et nous, les femmes européennes, on en est les premières victimes. C'est vraiment ça que nous, on essaie de faire comprendre. Pour moi, on joue avec le feu, parce qu'il y a une forte immigration extra-européenne qui arrive, une immigration maghrébine et africaine, qu'on retrouve souvent aussi dans la rue, malheureusement. On joue avec le feu parce que ce sont vraiment des hommes qui ont des cultures et des coutumes différentes des nôtres, une religion qui parfois légitime certaines choses qui sont illégales chez nous. Et il n'y a pas cette clé qui est l'intégration ou l'assimilation qui leur est offerte. C'est-à-dire qu'on leur donne des cours de français, oui d'accord, enfin, pour moi c'est largement insuffisant. Et on ne va pas forcément les aider à aimer notre culture, à comprendre aussi les valeurs qui sont les nôtres, et à comprendre cette notion d'égalité homme-femme et de respect aussi du corps. Parce que voilà, on sait qu'en islam par exemple, dans certains pays, évidemment qu'il y a aussi un islam européen qui est différent de l'islam pratiqué au Maghreb ou en Afrique, mais je parle là de gens qui viennent d'Afrique ou du Maghreb, on sait que la femme est totalement l'inférieure de l'homme, et on l'a vu dans de multiples égards, il suffit de voir aussi le comportement des talibans quand ils arrivent dans un nouveau pays. Donc voilà, moi je pense qu'on joue pas mal avec le feu, nous on le ressent en tout cas en tant que jeune femme dans la rue. Je suis assez triste du fait qu'il n'y ait pas encore assez de statistiques qui puissent appuyer mes propos, mais je vois que la gauche milite en ce moment pour les statistiques ethniques, donc moi je serais ravie qu'elles se mettent en place pour qu'on puisse montrer que nous aussi, à ce niveau-là, notre combat a du sens.
Et donc là, je vais me faire un peu l'avocat du diable, pour apporter un petit peu de nuance, parce que c'est les remarques, à mon avis, que tu dois recevoir majoritairement dès que tu parles de l'islam. C'est... est-ce que vraiment, à ton avis, l'islam serait problématique dans une présence en France et pour la condition de la femme ? Est-ce que ça amènerait nécessairement des problèmes auprès des femmes françaises ? Ou alors, le problème vient de personnes qui viennent de cultures différentes, qui correspondent à une immigration sauvage, donc c'est de la délinquance, de la misère sexuelle, donc de l'agressivité, et que ce ne sont pas des pratiquants de l'islam, donc ils ne peuvent pas représenter un islam et donc les valeurs qui sont transmises directement dans les textes et la pratique. Est-ce que c'est pas, du coup, je te pose la fameuse question, est-ce que c'est pas faire un amalgame de vouloir condamner l'islam et le considérer comme un danger en France pour les femmes ?
Je comprends ce qui est dit, en fait. Il y a vraiment deux choses. Il y a l'immigration peut-être infusée d'islam et qui va mener des hommes à ne pas considérer de la même façon dans la rue des femmes qui portent le voile ou pas. Donc déjà, il y a une hiérarchisation de la pureté qui est faite dans la rue entre les voilés et les non-voilés, et ça s'est on l'a vu à plusieurs reprises, des hommes qui justifiaient l'agression sexuelle par le fait que la personne n'était pas voilée. Il y a une dame de 96 ans qui s'est faite violer il y a quelques jours en région parisienne. On s'est rendu compte que son agresseur avait déjà violé avant une jeune fille de 13 ans il y a quelques années précédentes, en justifiant le fait qu'elle était une pute, je cite, car elle n'était pas voilée. Donc c'est quelque chose qui existe, si tu veux. Alors, en effet, pas chez tous les musulmans, pas chez tous les migrants, pas chez tous les migrants musulmans, mais c'est quelque chose qui existe, première chose. Deuxième chose, par rapport à l'impact de l'islam, il y a des musulmans en France qui ne sont pas des migrants, qui ont la nationalité française depuis longtemps, voire même depuis toujours, qui sont nés en France, et pour autant, je pense que leur religion, dans la façon dont elle est pratiquée parfois, peut en effet avoir un impact sur nous. On sait par exemple qu'il y a certains quartiers, et si ce n'est pas moi qui le dis, c'est Céline Pina qui est pas une femme de droite, qui le dit elle-même, que dans certains quartiers, les femmes se sentent obligées de se voiler parce que sinon, elles ne sont pas incluses dans la communauté du quartier. Donc déjà, il y a une ostracisation des femmes selon si elles se voilent ou pas. Moi, pour moi, c'est déjà un premier pas vers, une chute aussi des droits des femmes sur certains points. Première chose. La deuxième chose, c'est on se rend compte que de plus en plus, il y a cet impact aussi de la hiérarchisation de la pureté dans l'espace public, que nous, on ressent dans l'espace public, mais qui va aussi se ressentir maintenant à la plage avec l'arrivée des burkinis, dans nos écoles avec l'arrivée de la légalisation peut-être des tenues vestimentaires traditionnelles dans les collèges, lycées ou les universités, c'est déjà le cas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette deuxième chose que moi, je ne pense pas souhaitable. Et puis la troisième chose aussi, par rapport à cela et par rapport à un développement de l'islam en France, c'est aussi qu'on n'a quand même pas du tout les mêmes rapports. Je ne sais pas si tu as vu passer cette vidéo où on voit la princesse maintenant de Cambridge face à un imam qui refuse de serrer la main. On sait que dans les sports, on est face à ce genre de comportement où certains hommes ne veulent pas tourner avec des femmes parce que ce sont des femmes. Ne veulent pas leur serrer la main non plus, d'ailleurs, par la même occasion. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte aussi que dans la religion musulmane, c'est quand même écrit dans les textes, que le rapport à la femme n'est quand même pas du tout le même, que la place de la femme n'est pas du tout la même dans la société. Et moi, je trouverais ça quand même assez grave que dans un pays où les femmes se sont battues pour avoir une place en politique, pour avoir une influence, et bien finalement, on les renvoie à quelque chose qui n'est pas forcément ce pour quoi on s'est battu. Voilà. Mmh. Moi, je suis quelqu'un aussi qui est très... Je ne suis pas quelqu'un d'anti-religion, je suis moi-même croyante, mais pas musulmane. Donc, je ne suis pas dans une logique, si tu veux, à la Charlie Hebdo, de laïcisation forcée. Ce n'est pas du tout mon propos. Sauf que moi, je considère qu'on est dans un pays français, enfin, on est en France, dans un pays de culture chrétienne, où la place de la femme n'a pas du tout été la même dans la société. On sait, par exemple, que le catholicisme a libéré la femme sous l'Antiquité, chose que le judaïsme et l'islam n'ont jamais fait de la même façon. Il faut savoir que voilà, la place de la femme dans les sociétés musulmanes ou juives a mis beaucoup plus de temps. Nous, on est un pays... en tout cas, du moins, une civilisation qui a beaucoup plus d'avance là-dessus et qui a vraiment... mis la notion d'individu au centre au point d'essayer de supprimer l'esclavage mais aussi de supprimer le fait que les femmes aient moins de droits parfois même que les esclaves. Du coup, c'est vrai que moi je ne suis pas du tout pour l'expansion d'une religion qui a mis beaucoup plus de temps que nous justement à se développer.
Mais là encore une fois, je vais continuer à faire un petit peu l'avocat du diable, c'est que donc tu as dit que par exemple, donc avec la prolifération de l'islam et les effets que ça peut avoir sur les lieux publics, c'est par exemple on peut voir donc des signes de soumission de la femme ou de perte de droits de la femme avec par exemple la présence du burkini sur les plages, etc. Mais quelque part dans la société dans laquelle on est, et c'est justement ce qui a été amené et qui est constamment promu par le féminisme postmoderne, c'est-à-dire la libération totale du corps, etc. Est-ce que ce ne serait pas compréhensible, quelque part, de voir des femmes qui choisiraient naturellement? Est-ce que ce serait nécessairement mauvais? Il faudrait considérer ça comme vraiment une suppression de droits des femmes qui se convertissent massivement? Parce qu'il faut reconnaître, bon, après ça c'est la logique biologique, quand on met en... une énorme quantité de personnes dans un endroit et qui vivent en communauté, ils vont vivre en expansion, ils vont pas s'assimiler, c'est normal. Et il y en a même d'autres qui vont s'agréger. Et on voit de plus en plus donc d'hommes et aussi de femmes aussi se convertir à l'islam. Et comment est-ce que tu peux interpréter ça, ces personnes qui se convertissent à l'islam et les femmes et qui ne considéreraient pas perdre en fait justement des droits?
Eh ben, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent justifier ça. Il y a peut-être une perte de spiritualité de notre société, peut-être qu'on ne séduit plus. Peut-être que le wokisme ambiant et le progressisme ne plaisent pas à tout le monde, contrairement à ce que peuvent penser ces grands défenseurs, et que les gens vont chercher un petit peu plus de profondeur, de spiritualité que l'islam propose. L'islam, la communauté musulmane, en tout cas en France, est très forte parce qu'elle est hyper séduisante. Elle permet d'appartenir à un groupe. Je pense qu'aujourd'hui, le gros problème de nos sociétés contemporaines, c'est qu'on est seul. On se sent très vite seul. On n'appartient plus, en fait, à avant, tu sais, il y avait les villages, il y avait vraiment des communautés qui étaient bâties, peut-être autour d'une autre religion aussi. Là, maintenant, j'ai l'impression que les gens n'ont plus de racines, si tu veux. Ils n'ont plus vraiment de famille. Les familles, il y a un taux de divorce qui n'a jamais été aussi gros, voire même... maintenant, les gens ne se marient plus, tu me diras. On ne crée plus une nation. Et je pense que c'est ce qui manque aux gens, c'est ce qui manque cruellement aux gens. Et du coup, ils vont trouver dans des communautés musulmanes, ou d'autres communautés aussi d'ailleurs, hein, mais là, en l'occurrence, on parle d'islam, quelque chose auquel se rattacher, une véritable famille. Je le vois aussi dans d'autres thématiques, cette quête en fait de groupe, tu vois. Donc ça, c'est la première explication que moi je peux donner. Et je veux dire, moi je blâme pas la communauté musulmane d'en profiter. Je veux dire, plus ils convertissent, plus c'est le but d'une religion aussi, hein, de convertir. Donc c'est à nous, non musulmans, peut-être de proposer des alternatives. Parce que moi, mon but, c'est pas vraiment que l'islam se diffuse en France. Et c'est vrai que moi je suis opposée à sa diffusion. Ça veut pas dire que j'empêche les gens de se convertir, évidemment que je ne suis personne pour faire ça et que c'est pas illégal, enfin voilà. Mais moi, je ne vois pas l'expansion de l'islam dans mon pays comme une bonne nouvelle, voilà. Mais donc, je comprends totalement que des gens se penchent là-bas, et peut-être que j'aurais été la première si j'avais pas eu les racines que moi, on m'a inculquées, qu'on m'a données, et je peux comprendre ça.
Et donc justement, à partir du moment où il y a cette situation et que tu as cette analyse-là, est-ce que ça ne devrait pas faire en sorte que le collectif Nemesis, en tout cas toi, et progressivement tes militantes, devrait être du coup finalement pour le retour du catholicisme et la pratique du catholicisme? Parce que c'est-à-dire que là, on le voit bien dans ces sociétés laïques, que ce n'est pas un moyen de résistance contre justement l'expansion d'une religion. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas en fait une nécessité de votre part, de par votre discours, en fait, de faire la promotion du catholicisme?
Alors je comprends, après nous on n'a pas une vocation aussi importante et on n'a pas les moyens d'ailleurs de révolutionner non plus notre génération, on essaye à notre échelle. Moi je pense qu'il y a déjà deux choses qu'il faudrait faire. La première, c'est arrêter de cracher sur notre histoire. Ça, c'est quelque chose que je trouve mais systématique. Je pense qu'on est le seul pays à avoir honte à ce point de notre histoire, et surtout à ce qu'on inculque cette honte aux élèves en cours, quoi. C'est-à-dire que moi, je me souviens, mon programme au collège, c'était au collège et au lycée, j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu le même. C'était beaucoup la colonisation, la Shoah et la Première Guerre mondiale, qui était une boucherie, voilà. Donc en fait, on a l'impression que toute l'histoire de France est souillée, ce qui ne veut pas dire qu'il faut passer sur et ne pas parler des mauvais moments, mais si tu veux, l'histoire de France, c'est pas que ça. Et moi, vraiment, je redécouvre là, en lisant l'histoire de France, vraiment de mon pays, et je découvre mais toute cette puissance qu'on a eue pendant des siècles, quoi. Mais ça, on m'a pas transmis cette beauté-là et cet amour de l'histoire à l'école, si tu veux. Et je trouve ça dommage parce que, en fait, quand tu vois des jeunes qui, peut-être à la maison, on leur inculque l'histoire d'un autre pays où on la double nationalité et tout, mais je comprends qu'ils n'aient pas forcément envie, dans un premier temps, en fait, d'être attachés à notre pays. C'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport au catholicisme, en effet, je pense que, en effet, bon, en plus, il y a des grosses crises aujourd'hui qui secouent l'Église et qui sont dramatiques et condamnables, évidemment. Maintenant, le catholicisme aussi, il faut aussi rappeler ce qu'il a apporté à notre pays, ce qu'il a apporté de bon. Et là aussi, c'est pas de voir tout de la mauvaise façon, quoi. Je veux dire, on a des églises partout dans nos villes. Faut donner envie d'aimer ce patrimoine-là. Je pense que vraiment, avec moi, je te dis, je peux pas. J'aimerais bien m'occuper de ce combat-là, mais pour moi, c'est un tout autre combat à part entière.
Donc, excuse-moi de te couper, c'est que là, il y a une question qui vient d'apparaître de quelqu'un qui a fait un don, donc c'est Clou Intelligent, et je le remercie pour ça, et c'est justement en lien avec la conversation. La question, c'est: Alice, doit-on aussi fermer les couvents, femmes recluses avec vœux de chasteté, restreindre la seule misogynie musulmane et utopique de nos jours? C'est-à-dire que peut-être qu'on peut en faire une question plus précise par rapport au sujet, c'est... Par rapport donc là en fait à ton discours, vu que tu sembles pointer du doigt, et là c'est pas une accusation, hein, c'est vraiment juste une question simple, c'est vu que tu sembles pointer du doigt par exemple que parce que dans la pratique de l'islam il y a l'imposition du voile qui serait donc une privation de liberté de la femme, est-ce que ton collectif, ou en tout cas toi, ne serait pas obligé par exemple d'attaquer justement les femmes qui sont dans les couvents?
Je comprends la question. Maintenant, je pense que on ne peut en aucun cas comparer la religion musulmane de la religion catholique. Il faut savoir que on a vu beaucoup de musulmanes se dévoiler et se faire incendier et ostraciser par leur communauté, et je pèse mes mots. Je n'ai jamais vu une religieuse enlever son voile et se faire ostraciser par la communauté catholique. Donc déjà, le rapport au choix et à la liberté n'a quand même rien à voir entre les deux religions. Moi, je crois aussi, la deuxième chose, c'est que les religieuses ne vont pas au couvent ou ne se voilent pas pour les hommes. Elles se voilent pour créer une sorte d'alliance avec le Seigneur et pour le montrer aux yeux de tous. Les femmes musulmanes se voilent pour X raisons, ça peut être une quête spirituelle, ça peut être parce que leur père leur a demandé ou pas, ça peut être pour un retour à une certaine identité, enfin pour X raisons, et je pense pas du tout d'ailleurs, contrairement au discours un peu ambiant qu'on peut voir à droite, que les femmes musulmanes sont forcées de le porter, ce serait quand même les infantiliser, et je suis pas d'accord avec ça. Par contre, force est de constater qu'elles le font dans un but de pureté pour la société musulmane. En tout cas, pour beaucoup, le voile est censé être symbole de pureté ou non. Et d'ailleurs, si vous traînez un tout petit peu sur les réseaux, sur TikTok, puisque c'est aujourd'hui le grand réseau où on découvre tout, il y a énormément de femmes musulmanes qui sont jugées pour porter leur voile. C'est-à-dire qu'elles se font défoncer par leur communauté parce qu'elles ont eu peut-être une histoire avec un garçon, ou elles ont une réputation ou quoi. Et je peux vous dire que la pression du voile pour la communauté des jeunes femmes musulmanes est énorme. Qu'elle décide de l'enlever ou de le mettre, d'ailleurs. Donc, je pense que le rapport à la liberté n'est pas du tout le même entre ces deux religions. Et du coup, c'est vrai que moi, je ne traite pas de la même façon ces deux religions-là.
D'accord, très bien. Et donc là, il y a plein de réactions et de et aussi de questions. Il y avait un commentaire qui était à mon avis intéressant parce que donc là, c'est quand même bien de pouvoir de discuter de tout ça et de que tu puisses apporter en fait des éclaircissements sur la vision, parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est-à-dire qu'on t'a vu quand même apparaître sur TPMP par exemple, tu as pu faire plusieurs interviews et c'est vrai que c'est rare les moments en fait on peut prendre le temps simplement de définir les choses parce que tout vient en fait simplement d'une incompréhension et d'une absence de définition. Et donc là par exemple peut-être que la personne a loupé le début de l'entretien qui montrait la séparation qu'il y avait avec le féminisme postmoderne, c'est Alice, on sait tous comment la plupart d'entre vous vont finir, c'est-à-dire célibataire, seul et aigri une fois dépassé les 35 ans. Donc à mon avis, ça me semble plutôt pas à propos parce que, encore une fois, il n'y a pas de lutte des sexes, il y a une acceptation en plus de la présence des hommes et il y a non pas en fait une volonté d'émancipation ultime de la femme, c'est une protection de la femme sur un point de vue sociétal où il y a de vrais dangers et avec un retour finalement à une tradition pour de la sécurité.
Oui, puis alors, si ça peut rassurer cette personne, c'est un homme, je pense, qui a mis ce genre de commentaires. La majorité de nos militantes sont mariées et on a eu 10 enfants cette année de notre section de Paris et section alentour. Donc, si ça peut vous rassurer, ne vous inquiétez pas, on est totalement épanouis, il n'y a pas de souci. Et oui, comme dit précédemment, nous, on ne rentre pas dans cette logique séparatiste des féministes actuelles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des féministes qui prônent une société séparatiste où les hommes et les femmes ne devraient plus évoluer en même temps, ou même, enfin, certaines vont même jusqu'à vouloir séparer les écoles parce que les hommes seraient par nature dangereux pour les femmes. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On travaille avec les hommes, on travaille quotidiennement d'ailleurs avec des hommes qui nous soutiennent, et on n'est pas du tout dans une logique d'idéologie séparatiste ou misandre. Voilà, donc si ça peut vous rassurer, on n'est pas des féministes un peu comme le néo-féminisme le propose maintenant. Maintenant, on n'est pas non plus des donneuses de leçons. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas forcer quelqu'un à avoir des enfants, à se marier ou quoi. Je laisse les femmes libres. Moi, je montre mon exemple avec le fait que bah, voilà, moi, je vais me marier, je vais avoir des enfants et j'ai une vie de couple qui est très, très épanouie, il n'y a aucun problème. Donc moi, je ne me cache pas de le montrer, de montrer que moi, mon couple m'a permis aussi de tenir debout dans certains moments et je crois vraiment à la complémentarité homme-femme. Je le montre, mais je ne donne pas de leçons. Voilà. Donc après, si chacun fait comme il veut et chacun a sa façon de vouloir séduire, mais voilà, je ne suis pas non plus dans un discours d'extrémiste féministe séparatiste. Quoi.
Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant en fait, avec ton collectif et ton travail, c'est on connaît d'autres groupes dont on ne citera peut-être pas les noms, mais qui ont en fait ce qu'on appelle le cul entre deux chaises, c'est-à-dire tu te fais donc quand même beaucoup attaqué, donc évidemment par la gauche, mais on se rend compte aussi qu'il y a évidemment donc avec ces incompréhensions donc des attaques issues aussi de personnes issues de la droite un peu plus radicales. C'est quelles ont été justement, par rapport au collectif, pour en revenir un peu dessus, les obstacles que vous avez rencontrés, parce que je crois que tu as été victime, justement, en tout cas votre groupe a été victime régulièrement de censure sur les réseaux, ouais. Vous avez, parce que vous faites des actions politiques, comment ça se passe avec le développement de l'association, la réaction globale, les phénomènes de censure, ou peut-être même qui sait des problèmes juridiques, etc.
Alors, on a eu beaucoup de censure, notamment il y a un an lors d'une manifestation où on avait des hommes qui assuraient notre service d'ordre, qui se sont battus avec les militants antifa qui nous ont attaqués. Donc en gros, c'était de la légitime défense, mais heureusement, nous, on avait contre-filmé, ce qui a évité la dissolution de notre collectif. Mais malheureusement, il y a 10 secondes de cet échange de coups qui a été filmé. Et on a accusé notre service d'ordre d'avoir attaqué la manifestation féministe, ce qui évidemment n'était pas du tout le cas. Et du coup, on a tous nos réseaux sociaux qui, de jour au lendemain, ont sauté au bout de 2 ans de travail. Donc, on a en fait 2 ans de visuels, de vidéos, d'actions qui ont été supprimées du jour au lendemain et sans recours possible. Que ce soit sur Twitter, Instagram. Alors, Twitter, on a réussi à récupérer notre compte depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter. Mais du coup, c'est tout récent et on ne pensait pas qu'on aurait la possibilité puisque le recours était quasi impossible. Enfin, on en faisait très régulièrement, mais on ne le retrouvait pas. Mais Instagram, YouTube et même notre boutique en ligne a sauté du jour au lendemain. On s'est retrouvés sans rien et c'est toujours un peu difficile, même si on s'est remonté, de refidéliser 22 ans d'abonnés, quoi. Ça a été très dur pour nous parce que ça a été mentalement c'est dur quoi de repartir à zéro et de vraiment à zéro. Donc ça a été une première censure qu'on a connue. maintenant, ça s'est un petit peu calmé, j'ai l'impression. Est-ce que c'est aussi parce que notre discours s'est un peu normalisé depuis les dernières élections présidentielles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est beaucoup moins soumise à ce genre de choses. Mais on a aussi compris la logique des réseaux et on est un peu plus subtil qu'on l'était il y a 2 ans, peut-être. Et la deuxième chose, par rapport au problème judiciaire, moi, j'ai été attaquée une... Ouais. En fait, il y a eu 2 enquêtes contre moi par SOS Racisme et du coup, qui ont été regroupées. Et du coup, récemment, le procès a été annulé pour vice de procédure. Donc, en fait, pour l'instant, on est totalement vierge de toute atteinte. Maintenant, donc judiciairement, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ce qui a été dur aussi, ça a été les médias mainstream qui, pendant trois... Enfin, en tout cas, au début, nous ont vraiment souillés en essayant de nous faire passer pour des mouvements... Un groupuscule ultra-violent, etc. Alors que, enfin, non, vraiment, venez nous voir, on est des jeunes femmes de 20 ans qui voulons juste dire notre vérité, quoi. Et donc ça a été un petit peu dur parce que je pense que ça nous a fermé des portes au début. Et puis avec le temps, on s'est imposé dans le débat politique, on s'est imposé à la télé, on s'est imposé dans plein de trucs. Et c'est vrai que ça nous a permis d'accéder à beaucoup plus de choses. Un autre truc, enfin, qui a été très dur pour moi, ça a été justement, on est critiqué par une certaine partie de la droite la plus dure et la plus radicale, qui considère que, enfin, il y a une certaine misogynie, hein, je pense, vraiment assumée de certains hommes. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu des gens qui carrément faisaient des vidéos sur nous en expliquant qu'on était, enfin, je sais pas, on a eu toutes sortes de complots sur nous, qu'on était des proxénètes, on a eu, quand on organisait des parties fines avec de la cocaïne, enfin, on a eu des trucs totalement délirant et qui, à petite dose, ne touche pas, mais accumulé, on finit quand même parfois par nous irriter parce qu'en fait, enfin, on n'est pas un groupe bizarre, on est vraiment des filles lambda et c'est vrai qu'à force d'avoir ce genre d'attaque, ça a été un petit peu lourd, quoi. Mais bon, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais c'est toujours plus dur quand ça vient de pas de son propre camp, mais de gens qui partagent quand même des idées avec nous, quoi.
Alors, je vais en profiter là. Je vois donc, c'est ça qui est quand même toujours intéressant. C'est que je vois les nombreuses réactions et je me doute qu'il y en aura encore plus en commentaire. D'ailleurs, je vous enjoins tous quand même à mettre un pouce et à partager et de même de commenter si vous trouvez le discours intéressant, si vous n'êtes pas forcément d'accord. C'est que donc là, il y a beaucoup de personnes qui s'énervent. Donc, évidemment, ce sont les personnes qui sont soit musulmanes ou qui sont tolérantes de l'islam. Donc, le but d'inviter des personnalités sur la chaîne, c'est de donner déjà évidemment la parole à tout le monde. Et aussi, c'est que là, on a quand même pris le temps, en préambule, je vous invite quand même à réécouter peut-être le début de l'entretien, de bien définir en fait les termes précis. C'est-à-dire que tu t'es totalement justifié sur la situation, enfin les raisons d'avoir fondé le collectif, le fait d'avoir fait la différence avec une immigration sauvage. Bon, après, même tu dis que justement l'islam fait partie en fait d'une culture qui n'est pas adaptée finalement en fait à notre civilisation, qui est donc. Malheureusement, les médias disent judéo-chrétiens, mais c'est helléno-chrétiens, et qu'en fait, ça crée un conflit immédiat avec des femmes qui ne font pas partie de ce système qui peut venir de l'immigration massive, qui va être l'islam. Donc ça, que ça vous plaise ou non, que vous puissiez considérer ça comme une émission islamophobe, bah, là, ce sera un peu votre problème, parce que c'est juste simplement un débat et une discussion, et aussi basée sur des faits, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, la création de ton collectif a quand même été faite suite à des faits divers. Qui montre qu'en fait, il y a de toute façon une insécurité grandissante. On a une crise énorme en France actuellement, c'est-à-dire une crise financière, il y a une crise sociale, le wokisme est partout et attaque les enfants dans leur éducation, et on a aussi les femmes qui se retrouvent agressées de manière multiple. Elles ont été agressées pendant très longtemps par justement le féminisme et le capital qui les a récupérées pour ensuite les extraire de la famille et les mettre en esclavage. Et là, on prend conscience aussi que même quand elles vont dans la rue, etc., elles sont exposées, mais comme les mâles blancs, hein, les mâles blancs sont aussi exposés à l'insécurité comme les femmes, quoi. C'était juste pour faire ce petit point-là. Ça me semblait quand même le minimum. Donc, quelles sont les actions que le collectif va faire cette année? Quels sont vos objectifs justement pour les mois à venir?
Alors, en action, je ne vais pas trop en parler parce que le but de nos actions, c'est qu'elles soient justement assez secrètes dans la préparation, parce qu'on peut avoir pas mal de freins si les gens savent ce qu'on va faire à tel endroit, etc. Nous, notre but, en tout cas, cette année, il va être double. Ça va être toujours évidemment de dénoncer cet impact de l'immigration, de le dénoncer en France, mais aussi dans d'autres pays frontaliers en agrandissant notre collectif, notamment en Belgique et en Suisse. Et la deuxième chose, c'est aussi de s'attaquer à la transidentité. On sait qu'aujourd'hui, on est face à une invisibilisation de la femme. Depuis que les femmes trans, donc nées hommes, sont arrivées sur le marché, on va dire, du féminisme. Et c'est vrai que nous, on n'est pas pour la suppression du terme femme. Je ne sais pas si vous avez vu cet incroyable reportage qui a eu lieu aux États-Unis, qui, je ne me souviens plus, du réalisateur qui est un
What is
journaliste.
a woman de Matt Walsh?
Même, exactement, qui est juste effrayant.
Ah, ça a été coupé.
Ouais, pardon,
C'est bon? Ok.
j'ai eu un appel, désolé. What is a Woman, donc, qui est, donc ce reportage qui a été fait aux États-Unis et qui est juste hyper flippant par rapport à la situation des. Enfin, on est face à des théoriciens du genre qui ne savent même plus considérer le mot femme et qui ne savent même plus expliquer ce que c'est, tellement on l'a dénaturé. Et c'est vrai que pour nous, femmes, c'est très dur de voir ce genre de choses et de se rendre compte qu'en gros, notre nature même est remise en question suite à ce que moi j'appellerais des dérives idéologiques d'activistes LGBT, quoi.
Et justement, c'est vrai que c'est ça ce phénomène qui est intéressant, ce qu'on l'observe aussi même en fait dans le féminisme de gauche, c'est-à-dire que là il y a une guerre qui a été déclarée justement avec le mouvement LGBT, qui est assez intéressant, c'est qu'on voit en fait cette grande dérive de issue de la communautarisation et de vouloir non pas en fait viser une égalité, mais c'est en fait récupérer les droits des autres et faire exploser les siens pour se venger, etc. C'est ce qu'on voit que il y a un conflit absolument. Donc quelle est la position que tu pourrais avoir ou que le collectif pourrait avoir justement donc, par rapport à ces sujets-là, donc avec le LGBTisme, le wokisme, est-ce que ça fait que tu es dans un refus radical de ce mouvement-là? Ou est-ce que c'est pas uniquement pour la partie de la négation du mot femme avec une branche du LGBTisme qui parle de ça que tu refuses en fait?
Je suis assez radicale, hein. Moi, je pense que les minorités trans doivent rester considérées comme des minorités et non pas comme des femmes. Parce que là, on va arriver à des situations très complexes de femmes avec des testicules dans des vestiaires de femmes nées femmes, quoi. Je pense qu'on ne devrait même pas devoir préciser qu'une femme née femme, enfin une femme et une femme, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat. Il y a des hommes qui pensent qu'ils sont des femmes, mais ça, c'est une autre chose. C'est une minorité, on ne devrait pas arriver à une généralisation de ça en justement essayant de les, je sais pas, de forcer un petit peu la population à les considérer comme des femmes. Je pense qu'il y a des lobbies qui sont extrêmement bien financés, qui sont vraiment payés pour ça, pour mettre en avant ces idéologies, essayer de normaliser les différences. Je pense que les différences sont belles quand elles restent justement des différences et qu'à ce titre, il existe donc des régimes spécifiques. Je suis pas contre, par exemple, peut-être pour des personnes trans, qu'elles aient peut-être des toilettes exprès pour les personnes trans ou des vestiaires exprès pour ça, mais moi, je ne suis absolument pas prête à avoir des hommes dans mon vestiaire ou dans ceux de ma fille, quoi. Je veux dire, ça c'est hors de question. Donc ouais, j'ai une démarche plutôt radicale. Pour moi, une femme trans est un homme et je ne suis pas du tout prête à changer mon propos là-dessus. Voilà. Donc plutôt radicale, ouais.
Ok, donc je vais avoir en fait une question qui va nous faire revenir sur un sujet justement, parce que là je vois toutes les réactions de personnes qui peuvent être un peu en colère, mais je pense qu'ils font partie de la même communauté, on va dire, et semblent pas forcément très ouverts d'esprit, mais ça permet peut-être de poser une question intéressante, c'est-à-dire si on fait un constat objectif, il y a une présence certes de l'immigration, il y a l'islam qui est présent et il ne partira pas. Ça, c'est un constat qu'on doit faire. On le sait, l'islam part pas. On sait que l'islam ne peut pas être défini d'une seule et même manière, parce que il y a différentes voies, il n'y a pas de calife, etc. Et en plus de ça, en France, la crise étant protéiforme, il y a d'autres groupes qui continuent d'asservir le peuple français, qu'il soit d'ailleurs d'origine immigrée ou non. Est-ce que, selon toi, il n'y aura pas quand même la nécessité d'une alliance avec une certaine communauté musulmane pour peut-être calmer le problème islamique, des dérives islamiques? Ou est-ce que le collectif que tu as et ta pensée, tu penses qu'il faudrait quand même faire une sorte de sécession globale avec l'islam parce que ce n'est juste absolument pas compatible? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une coopération, vu que dans tous les cas, la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, on ne pourra pas, pour ceux qui souhaitent les faire disparaître, les faire disparaître du jour au lendemain, quoi.
Bah, en fait, je ne sais pas s'il existe un islam modéré, en fait. Si tu veux, j'ai l'impression que les musulmans modérés, par exemple Sonia Mabrouk, la présentatrice de CNews, dit qu'elle est musulmane. Je ne pense pas que la majorité de la communauté musulmane la considère comme musulmane. Et en fait, c'est ce gros problème que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de chef. Et du coup, il y a un peu différents. J'ai l'impression qu'il y a différents islams et on ne sait pas très bien lequel est le vrai. Et ils se tirent un petit peu parfois dans les pattes. Et c'est vrai que c'est compliqué en effet du coup de, à la fois on peut, les gens comme moi peuvent généraliser et peut-être que je connais mal cette communauté et qu'il y a des musulmans modérés que je ne connais pas. Mais dans ce cas, bah, qu'ils s'allient à moi en fait. Moi j'ai récupéré beaucoup de filles qui avaient quitté la communauté musulmane et je peux vous dire qu'on les récupère dans des états pas possibles après parce qu'elles sont totalement mises au banc de la société et traînées dans la boue littéralement. Mais j'ai jamais récupéré de jeunes femmes musulmanes qui me disaient en raccord avec ce que je prenais. Alors voilà, je sais pas moi qu'on vienne me contacter et me dire que oui, il y a un problème avec une certaine partie de l'islam et des musulmans viennent me le dire et m'expliquer un petit peu leur point de vue. J'ai encore, il y a peut-être, et je suis vraiment la première à le dire, il y a aussi peut-être une méconnaissance de ma part de cette communauté. Je connais d'autres communautés religieuses où je me rends bien compte qu'évidemment, il y a différents degrés. Il y a différents degrés d'intégrisme, il y a différents degrés de progressisme aussi, parce que peut-être il y a des musulmans un peu plus progressistes. Donc qu'ils viennent me parler, moi je suis totalement ouverte à l'échange. Maintenant, moi j'ai juste une réflexion que je leur laisserai peut-être réfléchir à ça, mais dans un pays de culture musulmane, je pense que la population serait outrée et serait... vraiment en révolution, si elle voyait une population d'une autre communauté religieuse arriver, prendre de la place et demander à changer les lois en fonction de leur religion. C'est ce qui arrive avec l'islam aujourd'hui, c'est ce qui n'arrive pas avec d'autres religions. Force est de constater que dans ce cas, eh bien, je vous laisse réfléchir à ça pour les musulmans qui seraient blessés par mes propos ou qui ne comprendraient pas. Mettez-vous à ma place aussi 2 secondes. Moi, je suis pas dans un pays que je considère de culture musulmane et je ne veux pas qu'il le devienne. Donc, je pense d'ailleurs que mes homologues musulmans dans un pays de culture musulman, pardon, de culture musulmane, n'aimeraient pas qu'une communauté catholique s'installe, prenne de la place et demande à changer leur loi en fonction de la religion catholique. Voilà.
Ben écoute, on les laissera réfléchir sur ça. Au moins, c'était bien que tu puisses t'exprimer comme ça, parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de savoir bien définir pour avoir des discussions intelligentes avec les gens intelligents. De toute façon, les autres seront triés naturellement. Donc, est-ce que tu penses, si là je te posais cette question de possible coopération pour essayer de gérer un problème qui ne cesse d'empirer, est-ce que tu penses qu'il y a obligatoirement qu'il va y avoir une aggravation de plus en plus au fur et à mesure des années pour les femmes françaises et qu'il faut peut-être un petit peu plus se radicaliser dans les actions? C'est parce que je sais que tu fais la promotion, non pas uniquement du sport, mais c'est-à-dire de l'autodéfense, le fait de posséder des... Bon, ça, de toute façon, on le conseille à toutes les femmes, je pense, aujourd'hui, d'avoir des sprays au poivre, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de... On va dire une sorte de guerre civile, ou en tout cas d'une insécurité qui va être tellement grande qu'on pourrait la comparer à une guerre civile, ou qu'il y aurait moyen de... comment dire, éviter cette crise-là, soit par une coopération, ou soit sinon par, on va dire, une isolation de la communauté tradie française.
Ça va être compliqué. Si on ne change pas la situation, ça va être compliqué. Si on coupe pas les vannes de l'immigration, ça va être très compliqué. Je pense que, alors, j'irai pas jusqu'au terme de guerre civile, puisque pour avoir fréquenté des pays vraiment où c'était la guerre, c'est quand même pas pareil. Par contre, on est face à une insécurité et à une pression dans la rue qu'on n'a pas dans d'autres pays. Je vais prendre un exemple. Je suis allée en Europe de l'Est, bah, l'an dernier. Dans la rue, en Slovaquie, on n'a pas peur. Les femmes n'ont pas peur. Elles n'ont pas, en fait, cette... Alors, j'imagine que pour les hommes, c'est pareil. Ils n'ont pas peur de l'agression pour une cigarette ou pour un regard. On n'a pas, en fait, cette... C'est très bizarre comme expérience. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait depuis longtemps. D'abord, de ne pas avoir cette charge mentale de l'insécurité. C'est-à-dire de pouvoir se balader dans la rue, dans les transports, dans un pays qui est plus pauvre que la France, et sans pour autant avoir cette peur. En se disant, ça peut partir pour rien, faut que je baisse les yeux, faut que j'évite ce groupe-là. Ça n'existe pas là-bas. Donc, c'est des choses qui... Voilà, donc, moi, j'ai vraiment pris conscience, alors, je le savais déjà avant, mais de cette perte de qualité de vie et de sécurité qu'on avait aujourd'hui en France, en allant dans des pays d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale. Donc, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de sécurité qui est, on ne peut plus, enfin, voilà, indéniable. Maintenant, c'est pas non plus une guerre civile. Moi, je n'irai pas jusqu'à ce mot-là. Enfin, c'est quand même une petite guerre, mais elle est pas, c'est pas non plus une...
Oui, de toute façon, je ne disais pas pour aujourd'hui, c'est que quand on voit la situation qui peut empirer, et même encore plus, là, par exemple, avec l'actualité d'aujourd'hui même par rapport aux retraites, donc la situation économique, on peut se douter que les tensions vont constamment continue à augmenter. Et c'est sûr qu'à mon avis, s'il y a un appauvrissement général de la population, il y aura encore plus de misère sociale, donc peut-être plus d'insécurité, et donc quelque chose qu'on pourrait limite appeler, qui pourrait se rapprocher progressivement d'une sorte de guerre civile. C'était ce que je voulais dire. Je ne dis pas qu'elle est maintenant.
Alors, moi, je ne pense pas que ça arrivera jusque-là, parce que je pense que les gens... en fait, je pense qu'on risque plus d'arriver avec des territoires hyper chauds où que certaines communautés iront, et des territoires où les gens qui veulent éviter ça iront ailleurs. En fait, je pense que vraiment, et c'est déjà ce qui arrive aujourd'hui finalement, parce qu'on a des lieux dans certaines villes qui sont hyper chauds et puis d'autres où il fait très bon vivre. En fait, donc je pense qu'on risque plus d'arriver à grandeur nature avec des régions peut-être hyper craigneuses et d'autres qui seront très safe. Je pense que ça risque en effet, par contre, on risque la vraie lutte des classes, là, on va vraiment la voir entre ceux qui ont les moyens de fuir l'insécurité et ceux qui ne les ont pas. Donc ça, on le verra aussi. Il y aura évidemment un phénomène d'expatriation qui a déjà commencé, pour certains. Après, je ne suis pas sûre que le peuple français soit assez énervé pour affronter une guerre civile. Je ne suis pas sûre du tout.
Ouais, ça, je te rejoins pas mal quand on voit, de toute façon, il y a plein d'analyses qui sont faites et de critiques pour parler de la féminisation de la société, c'est-à-dire en tout cas la diabolisation de l'homme et la destruction de la figure virée de l'homme qui fait que il y a moins de comportements virils qui apparaissent dans la population française. On attaque en plus directement les enfants avec le wokisme, etc. On veut leur faire prendre directement des médocs et des hormones pour en faire vraiment des abominations très tôt. Donc c'est sûr qu'en plus, on n'aura pas forcément beaucoup de ressources pour se préparer à une crise. En tout cas, je pense qu'on a pu faire un bon tour de la majorité des sujets. On va pouvoir arriver vers la conclusion. C'est une association avec des antennes. Est-ce que tu pourrais dire pour les femmes qui pourraient écouter cet entretien et qui pourraient être intéressées de rentrer en contact avec le collectif, où est-ce que se situent les antennes actuellement? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se monter? Qu'est-ce que peut faire en fait une militante? Qu'est-ce que tu pourrais même conseiller en fait à une femme aujourd'hui pour essayer de pallier aux problèmes justement que tu exposes avec le collectif?
Alors, par rapport aux antennes, on en a dans les grandes métropoles en gros. Donc on a Lyon, Aix-Marseille. On a Paris, Nantes, Strasbourg, Rennes, mais c'est compliqué. Lille, si je ne l'ai pas dit. Dijon, Rouen, Reims. Voilà. Enfin, s'il y a des filles qui veulent me contacter, qu'elles m'envoient leur ville, et moi, je les mettrai en lien avec d'autres filles, sachant qu'on va en monter une aussi, en monter des antennes à Montpellier, Clermont. On en a une à qui vient d'émerger, mais j'en oublie peut-être. On en a aussi en Suisse et on en a une qui va arriver en Belgique à Bruxelles. Donc vraiment, contactez-moi si vous êtes intéressé, envoyez-moi votre ville et moi je vous mets soit en lien avec des responsables, soit avec d'autres filles intéressées pour monter quelque chose. Pour des femmes face à ces problématiques nouvelles qui arrivent en France, d'abord la première chose c'est de se former, aussi bien intellectuellement que physiquement. Donc moi, je ne tarirai jamais d'abord les sports de combat, mais aussi la muscu. Alors, même si je sais que les muscles, c'est pas forcément ce qui aide à s'en sortir dans la rue, c'est un renforcement indéniable. La deuxième chose, ça va être moi, je pense qu'il faut s'engager. C'est quelque chose que je prône depuis toujours. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la fibre militante, mais parfois, on a des belles surprises. On a des filles qui arrivent pas trop convaincues et qui deviennent des super militantes. Et vraiment, je pense que ça vaut le coup de prendre ce risque, d'essayer. Je dis pas que c'est une réponse à tout, je dis que quand vous vous sentez vulnérable et que vous sentez inutile entre guillemets face à cette insécurité, le militantisme est au moins une réponse là-dessus et vous êtes moins seul, vous entrez dans une communauté. Némésis, c'est une véritable communauté de femmes, c'est pas juste un mouvement militant avec des filles qui se connaissent pas, c'est des femmes qui se connaissent, qui s'entraident aussi sur un niveau privé ou au niveau du logement, au niveau professionnel, etc. Et c'est pas juste un mouvement de militantes qui se connaissent pas. Donc vous rentrez dans une famille, si tant est qu'il faut bien la servir aussi. Mais voilà, donc moi, je ne pas être seule, et puis s'armer avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a le droit aussi de s'armer, parce que, voilà. Savoir... vraiment s'entraîner à être dans des conditions de stress par le biais des sports de combat, je pense que c'est une bonne initiation. Il existe certains stages de self-défense qui sont intéressants, mais attention aux arnaques parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mais tester la violence, se tester face à la violence des hommes sur un ring, c'est déjà pas mal de connaître en fait nos différences à ce niveau-là et voir ça sert à rien de jouer les warriors dans la rue, quoi. C'est déjà un bon début aussi pour être présenté après à ce qui peut se passer.
Oui, d'ailleurs, je vais remonter vite fait sur ça. C'est très vrai ce que tu dis, hein, la différence entre sport de combat et self-défense. Ça, c'est un conseil d'ailleurs pas que pour les femmes. Hein. Le sport de combat vous met dans une situation d'incertitude totale. La self-défense, souvent, ça va être plutôt des scénarios. Ça ne veut pas dire que le conditionnement physique est mauvais, mais le plus important pour s'en sortir dans la rue, c'est de savoir gérer son stress et le fameux stress qui fait qu'on est tétanisé. Voilà. Ouais. Au-delà d'avoir une condition physique qui permet aussi de se carapater si vous êtes vraiment en danger, de courir vite. Voilà, ça, oui. C'est autre chose. Mais c'est important, hein, parce que pour les combats de rue, je ne sais pas si beaucoup de gens sont battus dans la rue, mais très souvent on fuit parce que le tout c'est de rester vivant. Quoi. Voilà. Donc c'est très bon conseil des sports de combat. Voilà. Donc en tout cas, Alice, merci beaucoup. Je pense que ça a permis de faire pas mal d'éclaircissements. J'espère que des femmes pourront entendre ça, ou même des personnes qui critiquent le collectif, que ce soit des membres de la communauté musulmane qui pourraient comprendre, ou même simplement des personnes qui peuvent avoir une vision radicale contre le féminisme et comprendre qu'en fait les femmes ont sincèrement en fait besoin d'aide aujourd'hui. Les femmes occidentales, elles sont de plus en plus isolées à cause de plein de raisons. Là on voit un très beau mouvement en général dans le biais de la droite, de la tradition, etc., où il y a de plus en plus de femmes qui apparaissent et qui s'organisent, ce qui fait quand même du bien. Donc contactez, allez sur le site directement, parce que vous avez un site internet, vous êtes aussi sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, et je vais terminer sur un dernier point. On a parlé d'insécurité, on a parlé de différents types de crises. Regardez tous les liens en description, justement sur Je Boutique Profonde, on vous aide à combattre la crise économique, justement gérer aussi les problèmes d'insécurité que vous pouvez voir dans la rue, etc. Regardez tous les liens en description. Encore une fois, Alice, merci. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.
Merci.